C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Dans quelques mois, le plus grand chantier, je dirais, pour les gens de la Rive-Sud, va s'amorcer. Travaux au tunnel La Fontaine. On sait que ça va durer pendant 3 ans. 3 voies sur 6 seront fermées. On a déjà aménagé ce qu'on appelle des systèmes, des voies pour permettre de pallier aux problèmes engendrés par ces fermetures. Ce matin, pour en parler avec nous, Martin Giroux, qui est le directeur général des grands projets routiers de Montréal, il est le responsable du projet du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Monsieur Giroux, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
D'abord, juste les données de base, là. Ça va durer 3 ans comme chantier. Est-ce que ça, c'est un maximum ou c'est un minimum 3 ans?
En fait, quand on parle du 3 ans, c'est pour la durée des entraves majeures. Donc les travaux vont durer jusqu'en 2026, mais au niveau des fermetures qui ont été annoncées le 4 août dernier, c'est pour les entraves majeures, donc le 3 ans.
Est-ce qu'il y a un risque de dépassement? Est-ce qu'on pourrait, je l'ai vu au pont Champlain, là, de dire on repousse, on retarde?
En fait, à ce jour, la conception du projet est avancée, quand même très avancée. Donc, c'est sûr que plus on avance, moins il y a de risques, en fait, qu'on découvre des imprévus. Mais en tant que tel, de ce qu'on a fait comme scénario, on est très, très confiant que le 3 ans va être un maximum. Mais on est actuellement en train de voir s'il n'y a pas des possibilités d'optimiser la durée, donc de réduire la durée davantage pour réduire la durée des impacts.
Ça va coûter combien?
Actuellement, ce qui a été annoncé, c'est de l'ordre de grandeur de 900 millions. Sauf que actuellement, on est en négociation avec l'entrepreneur pour avec des firmes externes et nos gens de nos équipes pour négocier la partie travaux. À ça, faut penser aussi qu'au niveau du montant, faut prévoir. Il y a par exemple des risques. Il y a des enveloppes qui sont prévues pour des mesures de mitigation au niveau du transport en commun. Il y a différentes autres activités qui vont faire partie de cette enveloppe-là de l'ordre de 900 millions.
La prochaine question va vous paraître étrange, mais je vous jure, là, il y a plein d'auditeurs qui me la posent à tous les jours. On a compris que l'état du tunnel était pire que ce qu'on avait cru au point de départ, ce qui a amené donc des sommes additionnelles. Est-ce qu'on a déjà pensé à dire, plutôt que de rénover, on va construire un autre lien, le mot à la mode, là, peut-être un pont, ou faire un autre tunnel? Est-ce que ça aurait coûté moins cher ou la seule option, c'était vraiment de rénover le tunnel?
Ces aspects-là ont été regardés lors des études quand on initie le projet. Puis la construction d'un nouveau pont, d'un nouvel ouvrage, c'est très très complexe et de plus grande envergure des interventions qu'on fait là. Donc le fait de faire des interventions qui sont proposées actuellement permettent de prolonger la durée de vie de la structure de 40 ans sans entrave majeure. Donc c'est une structure qui a déjà 55 ans d'âge et à laquelle on ajoute encore une quarantaine d'années avec cette intervention-là. Et pour la suite, en fonction de l'évolution des dégradations, ben il y aura des décisions qui seront prises pour la suite. Mais cette structure-là est encore en bon état, donc elle a juste besoin d'une cure de rafraîchissement pour l'amener à un autre cycle de vie.
OK. 3 voies sur 6 seront fermées. En tout temps pendant les 3 ans?
En tout temps pendant les 3 ans.
2 voies d'un côté, 1 voie de l'autre.
Exactement.
Donc c'est en direction de la rive sud, c'est 1 voie?
Exact.
En direction de Montréal, 2 voies. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est Montréal 1 voie puis 2 voies pour...
En fait, ça a été regardé avec nos spécialistes et spécialistes de l'entrepreneur pour voir quel scénario serait le moins impactant. Et clairement, il en est sorti que le scénario de 2 voies vers Montréal, 1 voie vers la Rive-Sud était le scénario le moins impactant pour les usagers de la route. Un des éléments qu'il faut retenir, c'est quand on arrive de la Rive-Sud, il y a une série de jonctions de voies avec la jonction de la 132, par exemple, qui amène beaucoup de contraintes. Puis le fait qu'on va vers Montréal, vous avez remarqué qu'en allant vers Montréal, on est en une pente montante. En plus, on tombe dans un chantier parce qu'il y a la réfection des dalles du côté de l'autoroute 25, du côté de Montréal. Donc, il y a d'autres contraintes. Donc, si on avait seulement qu'une voie avec toutes ces contraintes-là, ça aurait été moins efficace que faire le 2 voies dans...
Et c'est pas possible de changer les voies en tenant compte de l'heure de pointe.
Non, parce que en fait, il faut comprendre que pour des questions de sécurité, on doit ancrer les glissières, les séparateurs en béton entre les 2 directions dans le tunnel pour éviter s'il y a un incident pour que ça déplace vers la direction opposée. Donc, on doit les ancrer. Donc, c'est pas possible de pouvoir les déplacer à chaque heure.
OK, mais là, le casse-tête, là, j'entends les gens dans leur voiture se dire un peu. Là. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a une voie vers la rive sud, en fin d'après-midi, quand les gens vont quitter vers la rive sud comme ils le font, là, ça va être le bordel complet.
Mais en fait, ce qu'on a vécu ce printemps en termes d'entrave, ça a été quand même assez difficile. Nous, selon nos prévisions, oui, ça va être plus difficile que ça l'a été au printemps, mais pas avec le chantier qu'il y a sur l'autoroute 25 au niveau de Montréal. On s'attend à ce que l'impact ne soit pas exponentiel par rapport à ce qu'on a connu au printemps passé. Donc, ce qu'on avait un peu comme ordre de grandeur, si quelqu'un en temps normal passe dans ce secteur-là, sans chantier, avec maintenant le chantier avec une voie, on peut parler d'à peu près jusqu'à 4 fois le temps prévu initialement. Donc, c'est sûr que ça, c'est sans accident. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a un incident, ben ce facteur-là...
OK, ça veut dire qu'en temps normal, là, si ça me prend 15 minutes, vous me dites ça va me prendre une heure.
Exactement.
S'il n'y a pas rien, là, s'il n'y a pas d'accrochage, si...
Exactement.
Wow. Justement, s'il y a un accrochage, quand il y a une seule voie, un véhicule qui tombe en panne, par exemple, qu'est-ce qui est prévu?
En fait, il y a des remorqueurs qui vont être en place en permanence dans les deux directions pour assurer, en fait, effectivement, d'évacuer le plus rapidement possible les véhicules qui sont en arrêt. Il y a aussi une unité d'urgence d'intervention qui est là en cas d'incident ou s'il y a un incident avec blessés ou incendie. Le tunnel, en fait, il est configuré. Les gens le voient pas, là, mais il y a deux tubes que les gens circulent. Mais entre les deux tubes, il y a des corridors de sécurité. Donc, si jamais il y a un accident, par exemple, dans le tunnel, il y a des interventions d'urgence qui peuvent se faire via les corridors de service. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place, mais on est conscient qu'on doit encore travailler avec les services d'urgence. Il y a des rencontres, d'ailleurs, qui se...
Mais là, je veux comprendre. Vous me dites, entre les deux tubes, il y a un espace et des équipes d'urgence peuvent être installées à cet endroit-là.
En fait, ils peuvent intervenir via ces corridors-là.
Donc, OK, ils sont pas là en permanence, là.
Ils sont disponibles en permanence dans le chantier.
OK, mais est-ce que ça va prendre plus de temps à envoyer des secouristes sur une scène d'accident pendant les travaux que ça en prend actuellement?
Ben, avec cette unité d'urgence-là, justement, c'était l'idée, c'est de pouvoir pallier à l'arrivée des unités d'urgence, mais sachez qu'on est en train de voir pour mettre des accès privilégiés vers les tubes. S'il y a des incidents, par exemple, sur l'autoroute 20, vu qu'il va y avoir des retranchements de voies importants, ça nous permet d'aménager une voie pour que les services d'urgence puissent accéder au tunnel facilement. Et du côté de Montréal, on va installer aussi un genre de tournebride qu'on appelle pour pouvoir permettre aux gens de retourner dans l'autre direction pour pouvoir libérer l'espace pour permettre l'accès aux services d'urgence.
En bon français, on va pouvoir faire un U-turn.
Exactement.
C'est quoi votre plus gros problème? Le casse-tête là, qui hante vos nuits, vous dites ce bout-là des travaux, là, je sais pas trop comment on va en venir à bout. Je sais que à telle étape, ça aura tel impact pour l'automobiliste.
Ben, je suis une personne très positive dans la vie, puis en général, c'est pour nous des défis. Puis on a des équipes quand même très, très expérimentées, autant au niveau de l'entrepreneur qu'au niveau des équipes du ministère. Puis on a aussi des partenaires qui nous assistent. Fait que donc, en fait...
Y a-t-il un moment où vous dites ça, là, c'est la période la plus cruciale du chantier?
C'est sûr que la mise en place au début des entraves est toujours un peu stressante dans le sens que les gens doivent s'habituer. Donc, ce qu'on voit les deux premières semaines ne seront pas représentatives de la suite. Donc, c'est sûr qu'au début, on a toujours une certaine crainte, mais on est très confiant. On travaille quand même beaucoup de personnes qui sont très expérimentées. Donc, on a des modélisations aussi qui nous permettent maintenant avec la technologie de pouvoir anticiper les impacts, puis même les suivre en temps réel. Donc, la technologie aussi, elle nous aide beaucoup à pouvoir suivre tout ça, donc à nous rassurer par rapport aux interventions.
Une chance qu'il y ait du télétravail encore, parce que ça serait... Si on était dans le mode avant pandémie, ça aurait été vraiment un bordel. Ça veut dire quoi que vous avez calculé l'impact aussi sur les autres ponts, par exemple Jacques-Cartier, Victoria, Champlain. Vous attendez une augmentation, là, j'imagine, de circulation. Les gens vont passer par ailleurs.
Bien, en fait, le message qu'on veut passer, on est très conscient que il y a des impacts importants puis que les gens vont devoir vivre avec ces enjeux, mais on va tout mettre en place pour favoriser le déplacement vers les transports en commun. Donc, les gens qui peuvent aller vers le transport en commun.
Ça, c'est sûr. Le REM va entrer en service.
Le REM, en fait, la partie qui est annoncé à l'automne prochain. Donc, c'est sûr que nous, en coordination avec le REM, on va assurer des liens vers ces, entre autres, vers le REM parmi les.
Mais quand vous faites vos simulations, là, vous prévoyez combien de plus au pont Jacques-Cartier? Vous dites tel pourcentage, vous devez calculer ça, j'imagine, l'impact sur les autres ponts?
Oui, mais j'ai pas nécessairement ces données-là, mais tu sais, l'idée, c'est d'essayer de trouver le plus de mesures possibles compensatoires pour pouvoir permettre d'aller vers Montréal. Puis, vous savez qu'on a mis en place plusieurs stationnements, 830 places de stationnement statiques dans l'axe de la 20. Donc, on veut que les gens prennent les navettes qui sont prévues dans le corridor pour aller vers le métro Radisson ou autre transport qui permet d'aller vers Montréal, le centre-ville.
Parce qu'il y a déjà des impacts majeurs, là. Je pense à souligner tout ce coin-là, puis ça va jusqu'à Sherbrooke, puis déjà, c'est compliqué. Ça va être encore plus compliqué.
Mais il faut dire que la reconstruction des dalles de béton entre Sherbrooke et le tunnel, il n'y a pas beaucoup d'espace. On est très restreint, il faut aller tout reconstruire, les chaussées. Donc, les contraintes qu'on vit actuellement, ils sont très importantes. Donc,
parce qu'on parle beaucoup de la Rive-Sud, là, mais Montréal, dans ce coin-là, ouais. Là, c'est un cauchemar aussi. Là.
Bien, c'est sûr que c'est difficile, mais il y a quand même des mesures qui sont mises en place, puis il y a encore beaucoup de travail à faire. On a beaucoup d'idées, donc on travaille avec nos partenaires depuis l'annonce, en fait, pour essayer d'ici novembre de trouver des mesures qui vont minimiser les impacts. On n'annulera pas complètement les impacts, là. On est très conscient de ça. On est conscient qu'il va y avoir des impacts importants, mais l'idée, c'est on veut juste s'assurer que ça puisse être acceptable comme déplacement.
On s'est posé une question technique, si on veut, en voyant les installations sur la 132, une voie, deux voies. Bon. Comment vous allez déneiger ça l'hiver?
La largeur permet de tasser la neige sur les côtés, puis il y aura des opérations en fait de soufflage au besoin quand il y aura des précipitations plus importantes. Donc, voir une coordination accrue, on en est très conscient, mais pour nous,
on va être capable de tasser la neige puis de la ramasser sans bloquer la voie.
En fait, les largeurs de voie permettent ça, mais c'est ça. C'est sûr que par rapport à un axe habituel, il devrait être priorisé en termes d'opérations de déneigement. Donc, comme par exemple métropolitain, il y a différents axes qui sont priorisés quand il y a du déneigement, quand il y a des espaces plus restreints. Mais ça va être possible.
Question simple, curiosité. Habitez-vous la Rive-Sud ou Montréal?
Je demeure sur la Rive-Sud.
Dans le bout du tunnel ou pas?
Non, pas dans le coin du tunnel.
Vous ne prendrez pas votre auto pour aller à Montréal.
Mais il y a quand même plusieurs employés de l'équipe qui ont à circuler dans ce coin-là. Donc, ça touche quand même beaucoup nos gens également. Donc, les gens vont adopter des modes de télétravail où ils vont changer leurs habitudes de déplacement donc par le transport en commun. Donc, c'est sûr que c'est le message qu'on va passer à nos gens à l'interne.
Les petits-enfants habitent à Boucherville. Ça va être compliqué d'aller les voir.
Va être un petit peu plus long. Il va falloir prévoir vos déplacements.
Quatre fois plus, vous m'avez dit, hein, c'est ça?
Oui.
Au terme de ça, là, ça va avoir changé quoi, le tunnel? Là? Vous me dites, on prolonge sa vie de 40 ans. Là, on est tous passés là, puis on a vu les tuiles manquantes. On a vu... ça va avoir l'air de quoi, au final?
Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est une surépaisseur de béton à l'intérieur du tunnel. Donc, on vient protéger, comme remettre à neuf l'intérieur. Et en fait, ça va être recouvert d'une genre de peinture, donc qui va permettre en fait de rendre ça uniforme. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va permettre d'assurer une protection incendie, puis aussi d'assurer une durabilité des 40 prochaines années sans entrave majeure. Donc, ça va donner quand même un ouvrage qui va être rendu à 80-95 ans à ce niveau-là. Donc, on peut être très
fiers. Puis, va changer la vocation des voies avec l'éclairage? Il y a eu des obstacles à un moment donné qui faisaient qu'on ne permettait pas aux camions de passer à telle voie. Est-ce que ça, il va y avoir des changements une fois les travaux complétés?
Non, il va y avoir des feux de voie, en fait, qui vont guider les usagers, mais non, il n'y a pas de changement de prévu, en fait, en termes de corridor de circulation.
Monsieur Giroux, merci beaucoup d'être venu.
Merci, c'est bien gentil.
Martin Giroux, le directeur général des grands projets routiers de Montréal, responsable du chantier du projet du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Comptez de lundi, c'est l'horaire d'automne qui entre en vigueur pour les services d'Exo. Ça veut dire évidemment des changements d'horaire, des changements de parcours. Le directeur général d'Exo est avec nous, Sylvain Yel. Monsieur Yel, bonjour.
Bonjour.
L'an passé, il y a eu plusieurs circuits d'annulés. Bon, les gens ont dû conjuguer avec ça. Là, à partir de lundi, est-ce qu'on reprend où on était l'an dernier ou il y a des changements?
Il y a eu des changements depuis le printemps, en effet. Là, on en avait discuté, puis c'était dans les médias. Là, au printemps, on a eu des difficultés de livrer l'ensemble de nos services à cause de la pénurie de main-d'œuvre, particulièrement des chauffeurs là, dans plusieurs secteurs. Pas dans tous les secteurs, par contre. Là, pour le lundi, c'est les nouveaux horaires. Donc, depuis le printemps dernier, là, on a mis en place plusieurs mesures pour atténuer au maximum les impacts que pourrait avoir la pénurie de chauffeurs là, qui est encore présente, malheureusement.
On dit, OK, mais concrètement, ça veut dire quoi? Il y aura moins de circuits d'annulés? Quelles sont les innovations?
Oui, bien, depuis justement le printemps, là, ce qu'on a travaillé avec nous, on travaille avec des transporteurs privés qui eux-mêmes là ont des contrats avec nous. Donc, ils ont mis en place des mesures pour attirer des nouveaux chauffeurs, donc des primes de rétention, d'attraction, de référencement, des primes au salaire aussi. Donc, ils ont réussi à recruter plus de chauffeurs. De notre côté, pour être certain, on a embauché des nouveaux transporteurs. Donc, on a fait le tour de tous les transporteurs là, au Québec là, qui pouvaient nous fournir des autobus et des chauffeurs additionnels en vue de la rentrée. On a réussi à en trouver quelques-uns. On a une dizaine de nouveaux autobus qui vont s'ajouter pour pallier justement aux enjeux de la main-d'œuvre. Et donc, par contre, il n'y a plus d'autobus, il n'y a plus de chauffeurs de disponibles au Québec. Là. On est rendu en Alberta là, pour avoir des nouveaux autobus.
En Alberta?
Oui. Fait que quand on fait le tour là, de pour avoir des autobus privés pour des services là, à long terme, là, pas juste pour une journée, il n'y en a plus du tout au Québec là, disponible. Fait qu'on on a réussi à en récupérer une dizaine. Ceci dit, on a dû aussi travailler sur nos horaires. Parce que ce qu'on voulait, c'est de faire des horaires qui vont être respectés puis qui vont être, pour que le client sache que quand l'autobus est privé, l'horaire va passer. Fait qu'on a jumelé, dans certains cas, des parcours, des départs ensemble.
Deux, trois questions là-dessus. Est-ce que ça veut dire, dans certains cas, moins de fréquence sur un circuit?
Ça peut vouloir dire ça. C'est dans quelques secteurs seulement, puis c'est des circuits qui avaient une haute fréquence. Donc, on a décidé d'allonger quelques fréquences, surtout qu'on n'est pas à 100% de l'achalandage encore. Là,
OK, ça, je vais y revenir, mais est-ce que ça peut vouloir dire aussi, si mon parcours, exemple, me prenait, je sais pas moi, 20 minutes, on le prolonge parce qu'on a un circuit qui va chercher plus de gens?
En fait, on n'a pas fait ça. Non, ce qu'on a fait, c'est jumeler. En fait, on avait une ligne qui arrêtait à deux terminus distincts là, dans le coin de Terrebonne. Puis comme les stationnements sont pas pleins, on a décidé de pas faire l'arrêt au deuxième stationnement. Donc, au contraire, ça accélère. Mais ce que ça fait, c'est que les gens qui se déplacent en automobile pour aller prendre le transport doivent aller à l'autre terminus à Terrebonne pour prendre le même circuit. Donc, au lieu d'avoir accès à deux terminus stationnement pour auto, ils doivent se rendre à un seul, puis c'est la même ligne qu'avant, c'est le même temps qu'avant.
Pratico-pratique. On n'a pas retrouvé l'achalandage de la période avant pandémie, pas encore.
Non, dans les autobus, là, on est à peu près à presque 70 % là, 68 % là.
OK. Est-ce que ça veut dire que si moi je suis un client là, régulier, là, un usager, j'ai intérêt à tous les matins voir s'il n'y a pas des circuits d'annulés, de vérifier pour être bien sûr?
Non, je pense on livre environ 99 % de tous les départs. On a 5300 départs par jour. Là. C'est vrai que dans certains secteurs, il y a plus de fréquences d'annulation.
Dites-moi donc, c'est où les secteurs?
Oui,
où
je voulais dire, sur la Couronne-Nord, là, c'est Terrebonne, Mascouche, L'Assomption, Repentigny, surtout. Là. Donc, c'est l'Est de Laval. Sur la Couronne-Sud, on va parler de Sorel, Varennes, Sainte-Julie, Belle-Oeil, ces secteurs-là là, où il y a plus de problèmes de pénurie de chauffeurs. Donc, c'est là qu'on a pris plus de mesures aussi. Ce qu'on a fait durant l'été, c'est de développer dans notre application Chrono là, pour le transport, là, des alertes que vous pouvez vous programmer pour savoir à l'avance. Si jamais, dès qu'on sait qu'il risque d'avoir une annulation, vous allez recevoir une alerte, puis à ce moment-là, planifier peut-être votre déplacement, partir un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. Mais vous allez pouvoir vous rendre à destination. Ça va être avec un délai, malheureusement, dans ces cas-là. Mais vous le saurez d'avance.
Parlez-moi de l'impact des travaux au tunnel La Fontaine sur les autobus de la Couronne-Sud.
Oui, ça, c'est un vrai casse-tête. Là. C'est sûr que, de notre côté, on a été sollicité par le gouvernement pour mettre en place des mesures d'atténuation. Là. Il y a une ligne en particulier là, qui a été mise en place avec des stationnements incitatifs le long de la 20. C'est sûr que donc on sera au métro avec ça. On va être impacté également, mais il y a une voie réservée qui a été faite sur la 20 pour limiter les impacts. Ceci dit, oui, ça va être il va avoir des impacts sur nos services, mais on va être aussi une mesure importante de il y a le train de Saint-Hilaire, là. C'est un service qui roule, qui n'a aucun impact de trafic sur cette ligne-là. Il y a de la place d'un stationnement. Ça s'en va au centre-ville. Ça peut être une très bonne alternative pour les automobiles.
Mais quand vous dites qu'il y a une voie réservée, l'autobus va passer dans le tunnel ou si vous allez chercher la Montréal ailleurs?
Non, pour la partie du tunnel, il n'y a pas de voie réservée. Mais tout ce qui est la 20 en amont, là, à partir de Belleuil, il y a une voie réservée pour...
OK, mais pour traverser... là.
Oui. C'est le pont Jacques-Cartier, parfois, jusqu'au métro en Grignon. Pas en Grignon,
Radisson.
Radisson, excusez, oui. C'est là qu'on amène les gens.
C'est 3 ans de casse-tête, là. Ça va être bordélique, ça.
C'est ce qu'on nous annonce, en effet. Il va falloir que les gens vraiment planifient leurs habitudes puis changent leurs habitudes. Moi, j'invite les gens de ce secteur-là d'essayer les services de train de banlieue puis les services alternatifs. Ça va être vraiment mieux que de tendre en ligne dans le trafic. Là.
Mais souvent, le train de banlieue, un des enjeux, là, puis je vais vous donner l'exemple, ça a peut-être changé, là, mon collègue Pierre Curzy, Saint-Hilaire, pas de problème pour le prendre le matin. Il partait d'ici à 10 heures, là, il fallait qu'il attende à 1 heure l'après-midi ou 2 heures, je ne me souviens pas. Y a-t-il encore des périodes de délai où c'est la grande aventure? Là?
Oui, ben c'est ça que le service, il est là à l'heure de pointe, mais en dehors des heures de pointe, il y a beaucoup moins de fréquences. Ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder pour proposer au gouvernement d'ajouter des fréquences en hors-pointe. Le problème dans les trains, c'est qu'on circule ces voies du CN, du CP, puis ça prend des autorisations à chaque fois qu'on a besoin d'une fenêtre pour passer, parce que l'autre, ils passent leur marchandises. Là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on regarde actuellement d'augmenter.
Le grain avant l'humain.
Il faut croire que c'est eux autres les propriétaires. On a un bon partenariat avec eux autres, mais effectivement, à chaque fois, c'est de la négociation.
M. Yael, merci d'être venu ce matin.
Merci à vous. Au revoir.
Sylvain Yael, qui est directeur général d'Exo. Donc, à partir de lundi, puis vous le savez, on avait le responsable des travaux au tunnel La Fontaine hier, qui nous a assez clairement indiqué l'ampleur des bouchons à venir, là. La règle x4. Alors, si vous aviez l'habitude de prendre en temps normal, sans accident, pas d'accrochage, 15 minutes pour vous rendre d'un point à l'autre, faites x4, ça veut dire 1 heure. Si vous aviez l'habitude de prendre une demi-heure, faites x4. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et comme ça, tous les jours, là, je rappelle, il y a une voie vers la Rive-Sud, 2 voies vers Montréal. Ça va être quelque chose en fin de journée, principalement.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va regarder la situation de la violence à Montréal. Il y a des incidents réguliers, des coups de feu, des douilles qui sont retrouvés. Des gens qui sont blessés par balles. On a eu un automne assez intense. On a eu un été aussi marqué par beaucoup d'événements. Puis en parallèle, il y a des arrestations. Je vais en parler avec le commandant Salvatore Serraoui, qui est du SPVM, bien sûr, et qui a une expérience terrain. D'abord, bonjour, bienvenue.
Bonjour, M. Arcand.
Ça fait quoi, 20 ans que vous êtes dans la police?
21, oui.
Puis vous avez touché à tout, là.
Je me suis promené pas mal.
GTI?
Entre autres.
Patrouille, évidemment.
Patrouille dans les secteurs mouvementés, Montréal-Nord, Saint-Michel, la centre-ville, l'intervention, instructeur, on n'a pas de la force, instructeur de tir. Je me suis promené beaucoup.
OK. Je veux justement avoir votre vision, parce que vous avez cette expérience terrain. Là. Mm-hmm. Est-ce que c'est la situation actuelle, là, depuis un an, disons, là, qui est la plus explosive que vous avez vu comme policier? Il y a toujours des frictions, toujours des tensions dans certains quartiers, là, mais est-ce que c'est plus grave qu'avant?
Je dirais que c'est complexe. C'est que moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est que c'est ce phénomène-là, c'est ce changement de culture de nos jeunes qui banalisent les coups de feu puis qui ont moins de respect pour la vie humaine. Okay? Des opérations planifiées, on en a fait. S'attaquer à des bandits, arrêter des bandits, on en a arrêté, mais c'était ciblé. À cette heure, on fait face à une certaine criminalité qui est impulsive. Okay? Donc, on dit crime organisé, mais on voit plutôt qu'elle est désorganisée, puis un conflit, on se nargue sur les réseaux sociaux, mais ça finit avec des coups de feu. Fait que c'est là que ça devient complexe, parce que on veut toujours essayer de trouver une solution simple. Hein? On veut dire, bon, on a un bandit, on veut monter notre opération, puis on veut l'arrêter. Mais là, quand c'est des jeunes qui se tirent dessus sans aucune raison valable, ça devient complexe, changer une culture de banalisation.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes-là? Quand vous arrêtez quelqu'un, là, t'as tiré sur un autre jeune, t'as tiré sur une voiture, t'as tiré vers une maison, est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi ils font ça?
Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on disait que c'est peu important, c'est pas important. Et c'est pour ça que c'est choquant. Parce qu'ils réalisent pas à quel point qu'on peut, d'un, blesser quelqu'un, et de deux, gâcher leur vie. Parce que, bon, c'est quelque chose, là, quand le GTI arrive, vous le savez, là, on défausse une porte, puis on fait face à des bandits. Mais là, la personne, c'est comme si rien n'était. On a une espèce de sentiment d'impunité. Et c'est là que c'est complexe. Parce que comment changer le cœur de ces jeunes-là, de ces individus-là? Parce qu'une fois que le coup de feu est tiré, c'est trop tard. Faut miser sur la prévention. Mais la prévention, elle n'est pas quantifiable, on le sait. Mm-hmm. Puis ça prend bien des années. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard. On a déjà perdu une partie de la partie.
Quel est le portrait, je dirais, des saisies d'armes jusqu'à maintenant à Montréal? On est rendu là, parce que on comprend que ça circule facilement, là. Quelles sont les données?
Jusqu'à maintenant, 341 armes de saisies.
Quel genre d'armes?
Écoute, c'est principalement des armes de poing, okay, mais ça peut varier. D'où ça vient, ça peut varier également. La grande majorité, ce sont des armes illégales. Okay, c'est pas quelque chose qui, c'est pas des propriétaires illégales qu'on, il y a des vols là-dedans, mais la grande majorité, là, ça peut aller de l'importation, ça peut aller de la fabrication artisanale. Donc, c'est varié. Okay, mais pour cette année, on parle de 341. L'année passée, c'est 628. Fait que ça veut dire, là, que c'est 341 armes qui serviront plus jamais. Donc, notre travail, notre bout du travail, on le fait. On le fait. C'est qu'on mène on fait des opérations, on fait des arrestations, on est présent. Puis c'est 341 armes qui sont saisies, qui serviront plus jamais. Mais ça, c'est un côté. Parce que vous avez parlé avec mon collègue, le commandant Renaud, dernièrement, de l'anti-gang, mais ça, c'est un autre volet. Les enquêtes continuent. Qui veut dire quoi? Bien, en faisant des enquêtes contre les stupéfiants, bien, on vient s'attaquer au pouvoir d'achat des criminels. Okay? Parce que si ils ont pas de stup à vendre, ils ont pas d'argent. Ils n'ont pas de cash, ben ils n'ont pas d'argent pour acheter des guns. Ils n'ont pas de guns, ils n'ont pas de couture. Fait que c'est un cycle qu'il faut travailler ensemble. Sans oublier le volet de la prévention. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais faut vraiment, je le rappelle, faut pas l'oublier. Puis l'autre côté aussi, c'est que c'est bien beau la police, puis courir partout. Mais sans l'appui des citoyens, sans la confiance des citoyens, comment je fais mon travail? Moi, ce que j'ai de besoin, ce qu'on a de besoin, les policiers, c'est que quand on cogne à la porte suite à un événement, puis on fait du porte-à-porte, la confiance des citoyens.
Mais est-ce qu'il y a de la méfiance encore dans certains coins de Montréal? Moi, je me souviens d'une époque, là, Saint-Michel, entre autres, où les patrouilleurs me disaient, on arrive, puis on se demande si c'est pas un appel, puis c'est pas un piège, là, c'est pas un guet-apens. On se demande si, des fois, on cogne une porte, comme vous dites, puis on n'est pas nécessairement bien reçu, là. Est-ce que ça existe encore, cette méfiance face à la police?
Ben, ce que je peux vous dire, c'est que, assurément, ça existe encore, mais je peux vous parler de mes 4 ans à Saint-Michel, mes 3 ans à Montréal-Nord, OK? Parce que c'est les deux quartiers que vous avez mentionnés. Oui. Mais la majorité silencieuse qui nous appuie, on les entend pas parler. Donc oui, on parle d'une certaine méfiance des fois, mais la grande majorité des citoyens que j'ai rencontrés, des appels qu'on a répondus, des personnes avec qui j'ai travaillé, ils ont une confiance dans les forces de l'ordre. Et ça, cette confiance-là, cet appui, c'est la petite tape dans le dos qui nous sert pour continuer, qu'on a de besoin. Parce que, écoute, je me souviens des cas, là, qu'on préparait une frappe, on préparait une opération dans le garage, là, puis on voyait le plan d'opération, puis que ça allait finir avec un défonçage de porte puis une arrestation. Mais quand on voit d'où venait cette information-là, puis d'où le tout a parti, tu te dis, OK, c'est une information d'un citoyen qu'eux pensaient que c'était rien, que là, les enquêteurs qui travaillent très, très bien prennent ça puis mettent ça ensemble parce qu'il y a plein de petites informations partout qu'on est capable de colliger puis de monter un plan d'opération puis monter une enquête puis ça finit avec des arrestations. Fait que de dire qu'il y a une méfiance, moi, je le vois plutôt comme faut miser sur la confiance qui existe puis la renforcer plutôt.
Avez-vous l'impression que ça va finir par baisser? Puis, je regardais aux États-Unis, là, la ville où il y a le plus d'événements avec des armes à feu, le plus de personnes blessées, c'est Philadelphie. C'est vraiment dans un certain nombre de quartiers plus chauds, là, un peu partout à travers la ville, mais c'est pire avant. Et le maire de l'endroit disait, on a fait des opérations pour ramasser des armes, on a augmenté la présence policière, on a fait des enquêtes, mais ça n'arrête pas pareil. C'est une mentalité. C'est pas comme une guerre de motards où à un moment donné, ça finit.
Ben en fait, on travaille pour ça. Okay? Moi, si vous me demandez qu'est-ce que vous voulez, moi, c'est sûr que chaque policier, tout le monde, c'est notre priorité au service. Ça. Tout le monde est interpellé par ça. Fait que moi, quand j'ouvre mon téléphone le matin en buvant mon double espresso, là, puis je vois qu'il y a des coups de feu, ben c'est blessant. On dirait que c'est comme on a perdu une partie. Donc, est-ce que j'aimerais que ça arrête? C'est sûr, tout le monde veut ça. Mais faut jamais baisser les bras, puis on baisse pas les bras, puis on continue. On continue à faire des arrestations, on le voit. On continue à inonder les secteurs. On continue à faire nos projets de prévention pour justement que ce fléau soit contrôlé. Parce que c'est quoi notre choix? Abandonner? C'est impossible.
Non, mais sans abandonner, c'est parce qu'une guerre de bâtards, tu dis, ça va finir, ils vont trouver qu'il y a un intérêt à... Ouais. Bon, parce que c'est organisé, c'est plus structuré. Là, on a affaire à des gangs de rue, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas nécessairement un chef, Puis vous me dites vous-même, on tue pour tuer, puis on se rend pas compte que c'est important. Ça veut dire que c'est une culture à changer, c'est une approche à changer, puis ça peut prendre du temps.
Absolument, ça va absolument prendre du temps, et c'est pour ça qu'il faut miser sur la prévention. Mais la prévention, ça se fait pas d'aujourd'hui, puis ça se termine demain. Ça prend des années, ça prend l'appui de nos partenaires communautaires, ça prend l'appui de nos partenaires institutionnels et gouvernementaux pour justement changer une culture qu'on sait que ça peut prendre bien des années. Mais peu importe, si on est capable d'aller sauver un jeune avant que ça arrive, ça aura valu le coup, là.
Monsieur Serrao, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Bien, merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Commandant Salvatore Serrao, qui est du SPVM.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Et la première étoile, the first star, Terry Gray.
C'est lui le Messie.
Alain, quelle époque?
Je pense que ça va prendre un bout de temps avant qu'on réentende Michel Lacroix annoncer Carey Price comme la première étoile du match.
Quand la situation l'exige, oui. Je me permets de le déranger.
Commentaire sur Carey Price.
Exactement. Ron, commentaire sur Carey Price.
Avec grand plaisir, les amis. Bon matin.
Bonjour.
Bon
salut.
Matin. Bonne fête en retard, Alain. Je sais que c'est
merci.
J'étais en pêche, là, puis tout ça. Je passe à toi. Bon, OK. Maintenant, enfin, là, les amis, dès le début de la saison, on sait sur quel pied danser. Tu sais, l'année passée, là, c'était plate à mourir. On essayait de nous faire plaisir, lui faire plaisir peut-être aussi. Lui envoyait des tatas à ses enfants durant le match ou à peu près. Il a joué 5 matchs. S'il y a un gars qui l'a aimé, c'est bien moi. J'ai toujours cru en Carey Price et tout ça, mais là, regardons la situation, évaluons tout ça, puis moi, j'avance ce matin que c'est terminé. C'est terminé parce que le bonhomme a 35 ans. On peut parler de ce qu'il a fait avec le Canadien depuis 15 ans, je sais pas là, mais un peu plus tard, mais regardons ce qu'il peut faire pour le Canadien, ce qu'il pourrait faire pour le Canadien, puis c'est, selon moi, c'est pas une situation bonne pour le Canadien que de le revoir dans l'uniforme dans un an. Pas une bonne situation pour lui non plus à son âge. Il y a personne qui va profiter du retour de Carey Price, à part peut-être lui qui voudrait finir sur une meilleure note.
Une première question, est-ce que tu penses que s'il avait un meilleur club devant lui,
ouais.
Il serait peut-être tenté de revenir davant. Okay. Autrement dit, pas fort, tout aussi bien de m'en aller. Là.
Ouais, en clair, venez peut-être plus. C'est sûr, c'est certain qu'il y a de cela un an peut-être, mais c'est vrai qu'il a subi des interventions, tout ça. Il y a de cela peut-être un an, si on lui avait fait la proposition, puis on l'avait encouragé sérieusement à joindre une équipe qui a une chance de remporter la Coupe Stanley, Edmonton, Toronto. Toronto, c'est sûr que le...
Mais Ron, son genou n'aurait pas guéri plus vite, là, même
non,
s'il avait...
Non, c'est ça. Mais voilà, Alain, voilà pourquoi ça s'est pas passé ici. Parce que le risque est trop grand. Mais c'est sûr que... Écoute, Denis Savard est venu gagner une Coupe Stanley à Montréal. Raymond Bourque est allé gagner une Coupe Stanley au Colorado. Carey Price aurait sûrement aimé aller gagner, remporter une Coupe Stanley ailleurs. Je parle d'Edmonton, ça pourrait être les Flyers, ça pourrait être ailleurs. Mais, OK, revenons à notre patate, là. Carey Price, là, est une distraction, il l'a été. Ça me fait de la peine de dire ça, puis c'est rien de méchant, là, à son égard, là. C'est juste, c'est la réalité. Colin Devine, on en parlait à chaque semaine, Alain, tu le sais.
C'est vrai.
Même entre nous autres, il n'y a rien ici, il ne revient pas. Quand il va revenir, il va jouer deux matchs consécutifs. Ils nous ont donné une anane l'année passée.
Tu te souviens, Ron, à chaque fois qu'il sautait sur la patinoire à Brossard, ah là, il a patiné de gauche à droite, puis là, il a patiné de droite à gauche aujourd'hui. Là. Puis là, c'était
moi. Non, non. Tu sais, Paul, Alain, les gens l'écoutent, là. Il faut reconnaître que ce gars-là, cet athlète-là s'est investi et c'était notre meilleur joueur pendant de nombreuses années. C'est lui qui a transporté un petit peu l'équipe. OK, il n'a pas remporté la Coupe Stanley. Ça aurait pu être avec une victoire contre Calgary. Je ne sais pas, moi, à un moment donné, on aurait pu remporter la Coupe Stanley à quelque part. Il aurait pu faire un petit miracle. L'équipe aussi, puis tout ça. Puis ça, et on aurait pu se glisser, puis remporter une Coupe Stanley. Oui, la preuve, il y a de ça quelques mois. À peine, on est en finale. Vous allez dire, c'est du courage, la façon que ça a été tricoté, ce truc-là. Mais ça fait rien. 712 matchs avec le Canadien. Tu sais... Et écoutez, le premier, celui qui a remporté le plus de victoires, 361 victoires avec le Canadien comme gardien de but, plus que Roy, plus que Vigina, plus que Durnham, plus que Ken Dryden, plus que... Non, mais, comment allez-vous? Mais avec une équipe, posons-nous la question ce matin. J'espère qu'on va avoir quelque chose de mieux dans les prochaines années. Posons-nous la question. On a-tu, Alain, Paul, eu une grande équipe devant Carey Price depuis son arrivée avec les Canadiens?
Non.
Il n'y a jamais pu, que ce soit un directeur général ou un autre, là, on n'a pas eu une équipe où, à Vegas, on pouvait dire, tu sais, les cotes sont un pour un, tu sais, à Vegas, les Canadiens vont remporter la Coupe Stanley, ou deux pour un, ou trois pour un, ou quatre pour un,
c'est
les Canadiens
qui
vont remporter la Coupe Stanley.
C'est lui qui faisait bien paraître tout le monde.
Voilà. Et c'est pour ça que nous autres, l'amateur, on avait confiance que le Canadien gagne. Colin Devine, sur mon balcon avec mon beau-frère, là, durant la finale, durant les séries, là, on avait confiance, tu sais, d'emporter la Coupe Stanley avec Carey Price. Pas avec notre équipe, l'équipe aussi, mais avec Carey Price. Parce qu'il était. Écoutez-moi bien, là. Je sais qu'il y en a bien qui vont dire, ben voyons donc, Ron, toi et ton Price. Non, écoutez bien, là. Tu parlais à n'importe qui. Puis, si je me trompe, Alain, tu me corriges, OK? À n'importe qui. Martin Brodeur. Hey, Martin, hey, Marty, qu'est-ce que tu penses de Carey Price? C'est le meilleur.
Mais oui.
Il est meilleur? C'est le meilleur. Ça fait longtemps qu'il est le meilleur de la Ligue nationale.
Il était le meilleur gardien de sa génération. Ça, c'est...
Ben, écoute, oui, il y en a eu des Bobrovski qui étaient bons pendant un bout de temps. Après, Vasilievski est extraordinaire. Moi, j'adore Vasilievski. Il me fait penser à Hachek dans son temps. T'en souviens-tu, Hachek?
Ouais.
On disait de lui, il est bon, mais il est peut-être... Non. Vasilievski, il est top. Alors, mais Price, si t'avais à choisir un gardien de but, OK? Que tu t'appelles n'importe quelle équipe dans la Ligue, à part Tampa Bay, tu prendrais Price demain matin. Puis tu donnerais ton bras gauche. Tu donnerais, il y a un moment donné, il y a des équipes qui auraient donné 5 choix de première ronde, assurément 3 choix de première ronde, 3 années consécutives pour lui.
OK, je te pose la question maintenant. Est-ce qu'il prend sa retraite?
Écoute, là, écoutez bien, là, la gang, là, c'est complexe, tout ça.
Oui, c'est pour ça que je te pose la question.
OK, il y a l'aspect assurance. Ça va être le même scénario, quelque chose qui ressemble à celui de Pronger. Comprenez-vous, là?
Ouais.
Pronger, on a étiré ça, on a traîné ça. Puis maintenant, qu'est-ce que vous pensez de Weber? On a traîné ça aussi. Le gars peut pas prendre sa retraite. Il y a 31 millions qui l'attend. Il peut pas prendre sa retraite pendant 4 ans. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on va faire un peu, ça va être le même salado, mais dans votre tête, ce matin, dans votre tête, dans la tête du Canadien, dans la tête de Carey, selon moi aussi, c'est terminé.
Ouais. C'est mais terminé. Pour que les gens comprennent bien, là, il reste 4 ans de contrat?
4 ans, oui.
4 ans de contrat.
Ce qui veut dire 30 quelques millions.
Ouais, 10,5 millions par année, là, c'est un peu plus que c'est 40 millions.
Non, mais le gars, il peut pas, juste pour le plaisir de se, il peut pas de se libérer, de dire, OK, je suis tanné que les gens m'en parlent. Hey, sa femme va dire, elle se fout la cuisine, faut que je te parle. Non, c'est pas de même, ça marche. Non, non, le gars, sauf, puis l'autre affaire aussi.
Mais juste que je comprenne, là, est-ce que ça veut dire que le Canadien va lui payer jusqu'au dernier sou?
Non, non, mais oui, mais là, ben oui, mais tu sais que Carey Price était un des 6, 7, 8, je sais plus, là, un gars assuré, full blast, là, full, alors, les compagnies d'assurance, il y en a à peu près 3, je pense, qui se partagent ce dossier-là, à savoir que chaque équipe assure certains joueurs. Ils peuvent pas assurer tous les joueurs, coûte trop cher. Fait qu'ils assurent les top guns, les gars, les hauts salariés, tout ça. Espérons qui ont assuré Gallagher. T'sais, mais ce que je veux dire, c'est que là, la police, l'assurance paie un gros, gros morceau de son salaire. Et ça, comprenez bien, là, si Kent Hughes a signé Monahan, là, Alain, tu le sais, Carey Price jouera pas cette année avec non. Le salaire que Monahan va empocher. T'sais, arrêtons de nous questionner. C'est ça, là, on est libérés ce matin avec une grande tristesse parce que ce gars-là, j'aurais aimé qu'il remporte la Coupe Stanley. Vraiment, lui aussi. Puis c'est peut-être juste ça, en terminant, là, c'est peut-être juste ça qui l'agace. Mettons que je me fais opérer encore, puis mettons que je me fais un peu mieux, puis disons qu'il y a une équipe en quelque part qui dit, il manque juste ce morceau-là. Tu peux-tu me donner un petit peu comme à Tampa Bay?
Hey, je vais te poser une question, Ron.
Oui.
Tu parles, d'après toi, est-ce que quand le Canadien a affronté le Lightning de Tampa Bay en finale il y a 2 ans, est-ce que Price, tu penses qu'à ce moment-là, il savait que c'était sa dernière chance de gagner, qu'il passerait jamais aussi proche de gagner la Coupe Stanley?
Lui, Weber,
hein? C'est ce que je pense, moi.
Ouais, lui, Weber, c'est sûr, deux petits frères, Mud and Jeff, à Mud and Castello, les deux ensemble. les deux se disaient, it's now or never.
Prophète, merci d'avoir pris ce temps. Je sais que tu es fort occupé et mais c'est tellement apprécié par les auditeurs, les auditrices et l'équipe ici.
Trop gentil.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? L'essentiel de Paul Arcand est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer.